RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Oh, ravi de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy. Merci d'être là, merci d'être plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre. Merci de lâcher vos commentaires, vos likes, de nous suivre sur votre appli d'ailleurs, quelle soit. Vous êtes là, toujours plus nombreux. Merci à vous. Cet épisode numéro 28 nous emmène en Autriche, à Salzbourg, dans la ville de Mozart. Les noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart avec notre Mozart du football germanophone à nous, Polo Breitner. Salut Polo.
Bonjour mon cher Nico.
Je savais que ça te plairait ça mon Polo. Il anime le compte Twitter du RB Salzbourg en français, @fcrbs_fr. Pierre Gors est avec nous également. Salut Pierre.
Salut Nicolas.
Merci d'être avec nous, Pierre également, qui va nous amener sa science sur le football autrichien, notamment sur Salzbourg. Et quant à lui, il avait débarqué tout jeune au RB Salzbourg, c'était en 2017. Il est resté 2 ans en Autriche avant de signer à 3, qu'il a prêté à Pau cette saison notamment. Mamadou Dembélé est avec nous, salut, merci d'être là Mamadou.
Salut, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous Mamadou. Tiens, juste avant de démarrer, parce que bon, on s'est mis du Mozart, mais Polo, niveau musique autrichienne, il est plutôt branché ça lui. Hein.
Voilà, ça c'est bien.
Youkno, voilà. C'est ça que t'écoutes mon Polo là.
Exactement.
On fait tomber les masques, hein. On balance tout, là, la playlist de Polo.
Voilà.
C'est mignon. Mamadou, t'avais 18 ans quand t'as signé à Salzbourg. Alors dis-nous tout, Mamadou, comment un jeune natif de Brétigny-sur-Orge qui fréquentait le centre de formation du Paris Saint-Germain s'est retrouvé en Autriche? Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas finalement?
En fait, c'est le projet, tout simplement. C'était le fait de pouvoir jouer, accéder à l'équipe première rapidement en étant jeune. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Salzbourg.
Et t'as hésité quand même avant d'y aller, parce que j'imagine que tu devais pas être un grand suiveur du football autrichien.
Franchement, avant de signer là-bas, je savais même pas où ça se trouvait l'Autriche.
Ah ouais, d'accord, ok.
Carrément, je te jure. Et ensuite, j'ai fait ma première visite. J'ai comparé avec d'autres offres que j'avais. Donc c'était l'offre qui me paraissait la plus aboutie, je pense.
Et c'est quoi qui t'a le plus marqué là-bas?
Les infrastructures.
Ah bah, on va y revenir dans quelques instants à ce niveau-là également. Alors Polo, on connaît hein, ta germanophilie, ta passion pour le football allemand et autrichien. Mais Pierre, explique-nous d'où vient ta passion pour le foot autrichien et plus précisément pour le RB Salzbourg.
Bah, moi, là-bas, je suis d'origine autrichienne. J'ai des ancêtres qui sont nés dans le land de Salzbourg. Et du coup, bah, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai commencé à suivre les matchs spécialement de Salzbourg, mais aussi de la Bundesliga. Et puis, c'était juste après l'Euro 2016, j'ai créé un compte Twitter fan de Salzbourg sur Twitter, du coup. Et finalement, 2 ans après, il est passé en officiel parce que le club m'a contacté. Et depuis, bah, voilà, je suis sur leur compte Twitter officiel en français.
Et ben magnifique.
La transition rapide avec Adeyemi. Ah, il l'a vu de l'autre côté avec ce ballon. Oh la sensation! L'énorme surprise à Salzbourg! Le Bayern touché puni par le champion d'Autriche et c'est signé Adamou. La déviation de Müller, second poteau, Kingsley Coman. Et bien voilà la réaction du Bayern qui remet les pendules à l'heure grâce à son meilleur joueur ce soir, Kingsley Coman.
Magnifique match narré par le magnifique Julien Taxis sur RMC Sport. C'était le 16 février dernier. Le Bayern qui a été malmené à Salzbourg en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Alors dans quelques jours, les Bavarois espèrent corriger ça pour le match retour. Au-delà du résultat, c'est surtout la prestation des Autrichiens qui a impressionné. D'autant que c'est la première fois qu'un club autrichien atteint ce stade de cette compétition. Alors depuis que les 8e de finale existent, hein, c'est-à-dire 2003-2004. Alors Polo, on va focaliser hein, sur Salzbourg dans ce podcast dans quelques instants. Mais avant, un mot sur la répercussion de ce résultat qui a beaucoup, mais alors beaucoup fait parler en Allemagne. Hein.
Bah, ça a beaucoup fait parler, déjà parce que, qu'on le veuille ou non, l'Autriche et la Bavière, si tu veux, comme le disait Nagelsmann, la rencontre, c'était un peu un derby. Côté autrichien, moi j'ai entendu parler de match du siècle, etc. Donc évidemment, c'était très important pour les deux équipes. Ça a beaucoup fait parler parce que, évidemment, le Bayern venait de se prendre une correction contre le promu Bochum juste avant donc le week-end juste d'avant, que la prestation a été considérée comme très moyenne en Bavière, que le schéma tactique employé par Nagelsmann fait beaucoup parler en ce moment, c'est-à-dire de mettre tous ses attaquants ou ses joueurs à vocation offensive dès le départ, et puis il faut quand même saluer la prestation de Salzbourg et de ses gamins, je mets gamins Jungs hein, en allemand, de dire au niveau de l'engagement, parce que ça va très rapide, ça va dans le dos, on lance les attaquants d'une façon extrêmement systématique, donc tout ça a beaucoup frappé l'Allemagne, et d'ailleurs on a continué à en parler, puisque le week-end d'avant, il y a eu 4-1 du Bayern Munich contre Fürth, mais avec une première mi-temps qui a été catastrophique, et donc si tu veux, on est dans une période un peu de doute du club munichois, et engendré en partie par le match nul à Salzbourg.
Alors Pierre, c'est vrai que c'est qu'un nul, alors je mets vraiment des guillemets aucun pour Salzbourg, mais c'est quand même un sacré exploit. Ça a fait un gros retentissement en Autriche aussi, ce match nul de Salzbourg face aux voisins bavarois.
Ah oui, c'est un résultat exceptionnel. Sur le coup, il y a de la déception de prendre un but à la 90e minute alors qu'on a tenu tout le match. Mais en soi, un partout en 8e de finale de Ligue des Champions face à une équipe comme le Bayern, il n'y a rien à dire. Difficile de faire mieux. Et on aborde le match retour dans de très bonnes conditions finalement.
Alors Mamadou, toi qui connais le RB Salzbourg de l'intérieur, est-ce que tu as été surpris par le résultat et surtout par la prestation de Salzbourg face au Bayern ?
Surpris, oui, mais franchement, avec déjà c'est pas la première saison où je vois Salzbourg et ils font des résultats convaincants, on va dire, parce que l'équipe elle est jeune et le contre-pressing qu'ils mettent tout le match, c'est pas tous les clubs qui peuvent assumer. Franchement, je suis très content pour eux.
Ça c'est vraiment une chose qui, j'ai envie de dire, qui est dans l'ADN de ce club de Salzbourg. Alors toi, tu as aussi joué à Liefering, surtout d'ailleurs joué à Liefering, la filiale, l'équipe B de Salzbourg. Mais déjà, est-ce qu'à Liefering, il y avait déjà cette volonté de jouer comme ça?
Oui. Bah, en fait, ils nous inculquent. Et je pense que même depuis U15, hein, je pense. Moi, j'avais joué contre le PSG, Salzbourg avec le PSG en Youth League. Ils nous avaient mis 5-0, c'est là que j'étais choqué. Le pressing constant qu'ils mettent pendant 90 minutes, l'intensité qu'ils mettent, ça m'a vraiment... J'étais waouh. Ils sortent d'où? Et je connaissais pas du tout Salzbourg. C'est vraiment, ils nous inculquent depuis petit.
Ouais. C'est vrai que quand on voit en équipe première, on rappelle, hein, c'est l'équipe la plus jeune de Ligue des Champions. On imagine qu'en Youth League, ils ont quoi, 15-16 ans les joueurs, non?
Ouais, 16, 17, 17, ouais. Plus 17, je pense.
Ouais, ils sont tous surclassés. Alors Pierre, ce qui est vrai, c'est que Salzbourg affiche une vraie progression en termes de résultats au niveau européen aussi. Hein.
Oui, c'est sûr. Bah, il y a eu 11 échecs consécutifs en barrage de C1. Ça, c'était exceptionnel dans toute l'histoire de la compétition qu'une équipe échoue à autant de reprises. Mais après, il y a eu des bons résultats en Europa League. Ça passait les poules, ça allait plus loin. Puis il y a eu l'exploit des demi-finales. Après, contre Marseille, l'élimination, mais chaque année, Salzbourg progresse, et avec le coefficient UEFA de l'Autriche qui est très bon maintenant, ils ont une place directement en Ligue des Champions, et du coup, ils ont directement des grosses confrontations dès le mois de septembre, octobre, dès la première partie de saison, et ça change. C'était rare en Autriche d'avoir autant de beaux matchs, et maintenant, c'est chaque année comme ça.
Alors, c'est vrai que Pierre vient de le toucher du doigt, Polo, mais cette évolution finalement du football autrichien, même de Salzbourg d'ailleurs plus précisément, elle a pris du temps quand même. Hein.
Bah, elle a pris du temps parce que Pierre rappelait les échecs en qualification Ligue des Champions. C'était d'ailleurs presque un gimmick de Ligue des Champions. Tu sais, chaque année, ils sautaient en qualif. Et moi, je me rappelle très bien parce que je pense que Pierre s'en souvient aussi. C'est la double confrontation contre Malmö qui s'est finie au pénalty, 2-0 puis 3-0. Ensuite, ouais. À l'époque, c'était Peter Zeidler qui entraînait l'équipe, qui est un ami évidemment. Et je l'avais eu au téléphone après la rencontre. Mais il était défait parce qu'il pensait vraiment pour lui arriver en Ligue des Champions et ça se jouait à pas grand-chose. Ils avaient largement dominé le match aller. Ils s'étaient fait prendre une équipe d'anciens, de trentenaires au match retour. Et on voyait qu'il manquait encore d'expérience. Mais c'est vrai que le fait de progresser comme ça au coefficient UEFA, qui est une surprise quand même, et qui est surtout tiré par un seul club, faut pas l'oublier non plus, c'est le club de Salzbourg, fait que tu sens la progression. Et moi, je partage ce qu'a dit Mamadou, ce qu'a dit Pierre. Moi, ce qui me plaît dans ce que je vois à Salzbourg, c'est pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, c'est que chaque année, quand tu les vois jouer, tu sens que tu peux. L'exploit peut être là, que le schéma de jeu est en place, quels que soient les entraîneurs. Ils ont évidemment leur équipe B avec Liefering, etc. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce que je vois à Salzbourg. Et chaque année, on se rappelle aussi les rencontres l'année dernière contre Liverpool. Quoi. Il y avait des choses assez passionnantes à parler. Là. Bon, moi, je suis tombé amoureux du 6 de Salzbourg. Camara, ouais. Moi, je pense qu'il va faire une très très belle carrière. Voilà.
Ouais, c'est un sacré joueur. Hein. Ouais. Alors, le championnat autrichien est aujourd'hui 8e hein, au classement au ranking UEFA. Il y a encore 5 ans, le championnat autrichien était 16e. Et alors c'est vrai, Polo vient un peu de l'évoquer, Pierre, mais l'Autriche peut surtout dire merci au RB Salzbourg pour cette progression.
Oui, c'est sûr. Salzbourg marque une grosse partie des points en coefficient UEFA, mais les autres équipes suivent quand même un peu en match européen. Le Rapid Vienne glane quelques points. L'ASK Linz a remporté son groupe de C4 cette année. Et puis, même s'il y a des nouvelles équipes autrichiennes qui arrivent en tour préliminaire de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence, il y a quand même des points qui sont grattés un peu par-ci par-là. Et ça suffit à que le coefficient UEFA autrichien soit tout à fait correct.
Alors, faut aussi, Pierre, qu'on dise un mot sur l'histoire, hein, l'évolution du club de Salzbourg, qui est l'un des clubs de la galaxie Red Bull. D'ailleurs, je vous invite à écouter hein, le podcast qu'on a fait il y a quelques mois sur la galaxie Red Bull, qui est retrouvé sur votre appli. Voilà, il fait partie de ces clubs très récents qui sont arrivés dans le paysage footballistique, alors autrichien, oui, mais mondial même, d'ailleurs.
Hein. Oui, bien sûr. C'est une vraie avancée. Le foot autrichien est de plus en plus important, j'ai l'impression. Alors qu'il y a vraiment, il y a même 10 ans, c'était une 18e nation européenne. Les clubs ne comptaient pas au niveau européen. Et là, il y a une vraie mise en lumière avec des clubs qui vont dans les phases d'élimination directe et qui produisent un jeu...
Je suis pas tout à fait d'accord. Hein.
Vas-y, Polo, vas-y.
Non, mais je pense que Salzbourg, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et évidemment, je parle comme un papy, mais moi, j'ai connu le football autrichien d'avant, quoi. Et le football autrichien d'avant, qui était en finale de Coupe d'Europe, c'est pas du tout le Rapid de Vienne d'aujourd'hui. Enfin, je me rappelle, en 1985, lorsque le Rapid est en finale de Coupe d'Europe, je suis désolé, c'est Krankl et Panenka qui sont encore dans l'équipe. Aujourd'hui, on pourrait pas imaginer, alors même s'ils étaient en fin de carrière, on pourrait pas imaginer des joueurs comme ça au Rapid de Vienne, qui pour ces deux des alors il y a un des meilleurs milieux offensifs de la Tchécoslovaquie, hein, rappelez-vous, champion d'Europe 76. Krankl était un des plus grands attaquants et peut-être le plus grand attaquant d'ailleurs de l'histoire de l'Autriche. Aujourd'hui, on peut pas imaginer l'Austria, le Rapid, Linsk, enfin Lask, le Wolfsberg ou le Sturm Graz en ce moment, faire quelque chose en Europe. Alors... C'est-à-dire que aller en 16e d'Europa League de temps en temps, ouais, ok, mais le problème, c'est qu'ils se succèdent les uns les autres, parce qu'en championnat, le vrai problème, c'est que c'est the best of the rest. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent les places qu'ils peuvent encore prendre. Quoi. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les années 80.
Ouais. Alors, juste pour revenir hein, sur ce que je voulais évoquer il y a quelques instants, mais c'est vrai que ce club du RB Salzbourg avait racheté la licence de l'Austria Salzbourg, quel club historique c'était en 2005. C'est ce qu'ont fait beaucoup de clubs, d'ailleurs, de la galaxie Red Bull. Et justement, Mahamadou, est-ce qu'il y a un vrai engouement autour du RB Salzbourg en Autriche, ou au contraire, est-ce qu'il y a une forme de rejet parce que c'est un club jeune qui est lié à cette grosse société qui est Red Bull, justement, où toi, tu as senti un vrai engouement autour de Salzbourg, du club?
Franchement, je vais dire la vérité sur ça, je n'ai pas ressenti d'engouement ou d'une certaine, comment dire, méfiance. Donc, je peux pas savoir. Je me suis pas assez. Je suis pas resté assez longtemps pour voir ce genre de choses.
Ouais. Le côté historique, mais le côté historique, c'est pas quelque chose qui t'a marqué non plus pour le coup.
Non, pour le coup, non. Pas vraiment pas. Et ça m'avait l'air super récent. Donc, franchement, je peux pas m'avancer sur ce sujet.
Il faut remonter à 2013 pour trouver un autre club que le RB Salzbourg, champion d'Autriche. En l'occurrence, c'était l'Austria Vienne. Alors Pierre, la mainmise de Salzbourg sur la Bundesliga autrichienne est très claire depuis maintenant un long moment. Polo l'a un peu évoqué il y a quelques instants.
Oui, bah, c'est qu'en championnat, il n'y a pas photo depuis ce que tu disais, depuis 2013. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui est assez forte, qui a un effectif assez conséquent pour tenir de fin juillet à début mai. Et pourtant, le championnat a évolué, puisqu'avant c'était 10 équipes et il y avait un classement comme en Ligue 1 au bout d'une trentaine de journées. Et maintenant c'est 12 équipes, il y a une saison régulière et une phase avec les 6 premiers et les 6 derniers qui jouent l'Europe ou la relégation. Et ça a été fait pour que Salzbourg ait un peu plus de difficultés, mais finalement, même en enlevant la moitié des points au bout de 22 matchs, Salzbourg reste devant et gagne le championnat avec 15 ou une bonne dizaine de points, en tout cas d'avance, sur tout le monde.
Alors c'est vrai que pour le coup, on a détaillé la progression de Salzbourg. La question qu'il y a derrière ça, c'est où sont les autres clubs autrichiens? Est-ce que cette 8e place au ranking UEFA n'est pas un trompe-l'œil finalement?
Ah, pour moi, si, dans le sens où, déjà, rappelé, tu l'as rappelé, Salzbourg a racheté la licence de l'Austria Salzbourg, mais l'Austria Salzbourg, si ma mémoire ne fait pas défaut, à l'époque, s'appelait le Casino Salzbourg, ouais. Et il avait été finaliste de l'UEFA en 1994, contre l'Inter, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on n'imagine pas certains clubs autrichien faire des très très beaux parcours en Europe. D'ailleurs, on l'a bien vu encore cette année en Europa League avec le Rapid. Le Rapid qui... Non mais c'est dingue, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre incroyable de joueurs qui sont en fin de contrat. Cet hiver, les joueurs sont partis, dont leur attaquant qui est parti aux États-Unis. Enfin, on est en train de... C'est très délicat ce qui se passe. Sportivement parlant, l'Austria n'existe quasiment plus. De temps en temps, on a le LASK qui était, il y a encore 5 ans, en seconde division, monté par Oliver Glasner, d'ailleurs, l'actuel coach de Francfort, puis ensuite repris par Valérien Ismaël. Ils ont été en 8e d'Europa League, mais c'était un exploit. Aujourd'hui, ils sont dans une situation délicate en championnat. Tout ça, je suis désolé, moi, il y a Salzbourg et il y a le reste. Et quand je dis il y a le reste, c'est même les déclarations du Rapid, qui est le club historique du football autrichien, le Rapid de Vienne, qui n'est pas n'importe quoi, c'était un vrai leader du football européen pendant des années. Et bien, aujourd'hui, il se dit, nous, notre objectif, c'est de finir second, parce qu'on peut pas lutter. Et le déclassement du football autrichien, qui ne se voit pas paradoxalement dans le classement UEFA, se fait dans les petites coupes d'Europe. C'est-à-dire que c'est pas extraordinaire ce qu'ils font. Hein. Encore une fois, l'Europa League, le Rapid n'est pas passé. L'année dernière non plus, dans un groupe beaucoup plus compliqué. Sturmgraz, on a bien vu avec Monaco. Moi, Sturmgraz, c'est le club qui travaille, à mon avis, le mieux en ce moment en Autriche, à part Salzbourg. Et ben, tu te rends compte qu'ils sont tombés dans un groupe très difficile en Europa League. Ben, de mémoire, ils ont pris 2 points. C'est pas possible. Donc ils sont victimes, entre guillemets, de l'évolution du football des 30 dernières années, de l'arrêt Bosman, de l'ouverture des frontières partout. Il n'y a plus de joueurs autrichiens de très très haut niveau qui sont dans ces clubs-là de seconde zone, entre guillemets. Ils sont déjà tous repérés par Salzbourg, quand ils ne sont pas repérés déjà par les clubs allemands. Donc c'est très délicat, je trouve, l'image du football autrichien aujourd'hui. Vous l'avez dit, Salzbourg, c'est 50% à lui tout seul des points UEFA. Donc c'est beaucoup délicat quand même.
Alors Mamadou, qu'est-ce qu'elle vaut finalement cette Bundesliga autrichienne? C'est quoi le niveau, toi qui as joué à plusieurs niveaux aussi, malgré ton jeune âge déjà?
À mon avis, hein, je pense que c'est du bas de tableau Ligue 1, Ligue 2, hein. Pas plus.
Toutes les équipes, il y a vraiment Salzbourg et les autres, ou il y a quand même des équipes qui se dégagent?
Ouais. Salzbourg et les autres. Après, il y a un petit peloton où il y a LASK, avec, je ne suis même pas sur Rapid. Sinon, Salzbourg, c'est au-dessus. Salzbourg, ça peut jouer en Ligue 1, mais le reste, c'est en Ligue 2.
Et
Pierre... ça vaut une Toulouse,
ouais.
Qui sont premiers ouais, aujourd'hui.
Et Pierre, toi qui suis aussi assidûment la Bundesliga autrichienne, comment tu juges le niveau du championnat?
Le niveau, c'est assez compliqué, parce que c'est un championnat où il y a énormément de buts. Donc quasiment chaque année, c'est le championnat où il y a le taux de buts le plus important par match. Il y a des défenses moyennes, on va dire. Alors que en soi, le championnat, il est homogène parce qu'il y a Salzbourg et derrière, c'est extrêmement serré. Là, on le voit avec le classement actuel. On ne sait pas encore qui va aller dans le groupe championnat et dans le groupe relégation parce qu'à la dernière journée, il y a 4 équipes qui sont... en 2 points. Donc derrière c'est très très serré, c'est à peu près tout au même niveau. Mais voilà, s'il y a une équipe qui pouvait se rapprocher de Salzbourg, Après, ils n'ont pas les mêmes moyens, donc ça pose aussi problème. Mais ça pourrait être plus intéressant par la suite s'il y a vraiment une équipe qui se rapproche de Salzbourg, en tout cas. Oui.
Polo, tu voulais intervenir ?
Oui, non, mais ce qu'a dit Pierre est très important, le Mamadou aussi. C'est-à-dire que quand je dis c'est the best of the rest, c'est-à-dire qu'il faut prendre la seconde place. On en est là. Le Rapid se bat logiquement, historiquement. Voilà, c'est ça. Mais c'est dans beaucoup de championnats comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, se reproduit dans les petits championnats européens ce que beaucoup de personnes n'ont pas voulu voir, exactement ce qui se passe dans les gros championnats, ou plutôt l'inverse. Ce qui se passe dans les gros championnats, c'est ce qui se passait avant dans les petits championnats déjà.
Voir en Coupe d'Europe. Hein.
En Coupe d'Europe, oui, en championnat, tu vois bien que le Rapid, dès qu'ils travaillent un peu moins bien, ils sont plus seconds. Là, en ce moment, le Sturm Graz a un jeu que je trouve très intéressant, mais pareil, il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe et ils sont déjà tous partis. Dès qu'il y a un joueur qui a 20 ans, un défenseur central qui se débrouille bien, bon, hop, on sait très bien qu'il va partir en Bundesliga ou ailleurs, quand il n'est pas repéré déjà par Salzbourg. Donc, si tu veux, tout ça, mais ça se voit avec les titres. Salzbourg, c'est 12 des derniers championnats, des 15 derniers championnats, et c'est 8 des dernières coupes. Donc il n'y a pas de place pour les autres. Et le problème, c'est que ce déclassement du football autrichien, mais qui est le lot de tous les petits pays, on le retrouve en Europe. Et heureusement, j'ai envie de dire que Salzbourg est là pour cacher, j'ai pas envie de dire la misère, mais tu me diras quand est-ce qu'on peut parler un peu des finances des clubs, mais c'est un peu problématique quoi, en ce moment.
Ah, c'est bonne distance hein, peut-être pour Ngoti, il a frappé le but ! But de Bruno Ngoti qui ouvre le score ici à Bruxelles en finale de la Coupe d'Europe. Ngoti englouti par ses coéquipiers.
Ah, la voix de Thierry Gilardi, ce 8 mai 1996, Bruno Ngoti qui marquait le seul but de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe et qui offrait le titre au Paris Saint-Germain face au Rapid Vienne. Alors Pierre, cette finale est la dernière disputée par un club autrichien en Coupe d'Europe. Derrière, le foot autrichien ne compte que des finales perdues hein, au niveau européen.
Oui, c'est ça, 4 finales perdues au niveau européen, c'est ça. Mais ouais, c'est pour un pays comme l'Autriche, c'est déjà un exploit d'arriver dans les 8 meilleures équipes d'une compétition européenne. Alors, une finale, c'est 4 dans toute l'histoire du football, récente en tout cas. Et après, plus rien, parce que c'est
parce que
un pays comme
Bosman, parce que l'arrêt Bosman est passé par là.
Aussi, oui.
C'est
aussi voilà,
simple que ça.
Un pays comme la Roumanie a le Steaua à Bucarest, qui a une Ligue des Champions, c'est tout. Bah, l'Autriche n'en a pas eu, quelques finales. Mais pour les petits pays comme ça, ce serait un exploit gigantesque de gagner une Coupe d'Europe.
Alors en 96, Mamadou, t'étais pas encore né. Hein. Fallait attendre 3 ans. Ça nous met une grosse tarte à nous tous, les vieux. Forcément, toi qui es formé au PSG, t'en avais entendu parler de cette finale. C'est le seul titre européen du PSG.
Oui, j'en avais entendu parler. C'était contre Rapid de Vienne, ouais, c'est ça.
C'est ça.
Mais ils ne sont pas attardés dessus, hein, parce que c'était une coupe qui remonte. Donc on ne nous a pas vraiment parlé de cette coupe.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé, Polo, finalement, entre cette finale de C2 de 96 et ce huitième de finale historique de Salzbourg en Ligue des Champions cette saison? Est-ce qu'on assiste à une transformation, une renaissance du foot autrichien? Est-ce qu'on peut dire ça vraiment?
Moi, je ne pense pas qu'il y ait une... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de projets, de travaux sur le moyen et long terme. Lorsque tu regardes les comptes ou tu regardes le compte-rendu annuel du Rapid de Vienne, c'est-à-dire qu'on est dans le système allemand, hein, c'est-à-dire on est aussi là dans le système associatif, hein, où on donne les comptes, on donne ce qu'on veut faire à moyen terme à l'association et à ses membres. Et tu vois par exemple que le Rapid de Vienne, il y a quelques années, souhaitait ardemment, et c'était leur objectif, de rentrer dans les 50 meilleurs clubs européens. Donc il y avait un travail, etc., de fond qui était fait, etc. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le football autrichien, il y a deux voies qui se sont faites. Il y en a une qu'on peut considérer que le football autrichien, entre guillemets, est très vieux, dans le sens où tu vois parfois que je regarde la Sky, la chaîne Sky Autriche, tu vois, les présentateurs, les commentateurs, les experts, même si ce sont des légendes, tu vois, les gars, bon, ils ont plus de cheveux du tout, alors c'est plus blanc que blanc, quoi. Non, mais c'est assez impressionnant.
Il n'y a que des Polo Breitner, quoi.
Ouais, il n'y a que de ça. Ouais. et de l'autre côté, si tu. Donc t'as tout ce football-là qu'on évoquait un peu tout à l'heure, qui est le Rapid, l'Austria, le Sturm Graz, Wolfsberg et j'en oublie un, le Linz, évidemment, l'ASK. Donc ça en fait 6, ça, qui sont théoriquement les équipes de haut de tableau, je dis bien théoriquement. Et puis tu as l'autre, cas qui, lui, s'est complètement adapté, en fait, à la nouvelle donne du football européen et mondial, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, ce que ça veut dire, etc., qui a développé son propre modèle, c'est-à-dire on va chercher des jeunes un peu partout, on a un maillage mondial très important, évidemment, avec Leipzig, mais ils étaient en Afrique pendant un moment, l'Amérique latine, évidemment, le New York Red Bull pour la façade, etc. Mais, et donc, tu te rends compte que c'est un même pays qui s'affronte dans deux classes différentes et dans deux objectifs différents, comme s'il y avait une vieille Autriche, qui représente au passage la majorité des clubs européens, et ce football globalisé représenté par Salzbourg. Donc, c'est très compliqué de dire ça, parce que d'un autre côté, tu vois que l'équipe nationale est en train de revenir à un très bon niveau. Donc, je ne sais pas si on peut commencer à en parler maintenant. On y reviendra après. On y reviendra, mais c'est très très paradoxal, parce que les joueurs de l'équipe nationale sont pour la plupart aujourd'hui des joueurs issus de Salzbourg et non pas forcément des autres clubs autrichiens.
Alors Mamadou, toi tu es l'incarnation de ce que Polo vient d'évoquer, c'est-à-dire que Salzbourg est un club qui recrute des joueurs très jeunes, de nombreux joueurs étrangers d'ailleurs. Comment ça se passe la cohabitation? Parce que finalement il n'y a pas énormément de joueurs autrichiens au RB Salzbourg, y compris dans les catégories de jeunes.
Ça se passe de la meilleure des manières, franchement. Il y a des traducteurs de partout, des Français, Anglais, Brésiliens. Tu veux juste la vérité?
Vas-y.
Avant que je m'engage avec Salzbourg, on me disait qu'en Autriche, il y avait une certaine forme de racisme, etc. Moi, personnellement, j'ai rien ressenti de tout ça. Il y avait de tout et pourtant, jamais ressenti une certaine forme de racisme.
Et alors, quand
donc,
on prépare.
Ça prouve que vraiment c'était une très bonne cohabitation.
Et quand on préparait ce podcast, alors tu l'as un peu évoqué là, mais c'est vrai que tu me disais que en fait tout est mis à disposition pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Alors tu viens de l'évoquer, mais tu disais il y a des traducteurs de toutes les langues. C'est-à-dire dès qu'un joueur issu d'un pays qui ne parle pas, je sais pas, l'anglais ou quoi que ce soit, il y a un traducteur pour ce gars-là, en fait.
C'est ça, par exemple quand il y avait une vidéo, il y avait plein de petits groupes. Il y avait un traducteur pour le français, pour le coréen, pour le japonais, pour l'anglais. Et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait cohabiter malgré nos différences.
Ouais, c'est assez fou quand même.
Ouais. C'est très cosmopolite, de toute façon. Salzbourg, c'est là un peu la stratégie Red Bull qui va avec, finalement. Parce qu'il y a peut-être 16 ou 17 nationalités dans l'équipe. Et même connaissant un peu l'intérieur du club, Le directeur sportif, il parle 5 langues, le responsable du recrutement, il parle 7 ou 8 langues, et puis tout le monde dans le club parle plusieurs langues, comme disait Mamadou, il n'y a pas du tout de racisme, parce que tout le monde est accepté, il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui se côtoient, il y a de toutes les origines, en fait, et ça se passe très très bien, parce que leur seul but, c'est bien jouer au football, donc ça, tout marche très très bien.
On va évoquer le volet économique dans quelques instants avec toi, Polo. Juste, Mamadou, tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais qu'au niveau infrastructure, c'était un truc assez dingue également, le RB Salzbourg.
C'est incroyable. Le centre de formation, j'avais l'impression que c'était un centre commercial, déjà.
Bah, c'est un peu ça, vous êtes à vendre, les mecs, donc...
Non, il y a même un terrain couvert à l'intérieur. On cohabitait même avec des joueurs de hockey, pour te dire.
Ah, c'est fou.
Non, c'était vraiment des infrastructures qui te mettent plein les yeux.
C'est assez fou. Alors cela dit, c'est vrai que Polo, parce que encore une fois, Salzbourg, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. L'une des limites du football autrichien et de son championnat, c'est surtout l'aspect économique, justement, hein, Polo.
Oui, déjà parce que ça touche tous les, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu d'une façon un peu dédaigneuse, les petits pays du football. Il n'y a pas de droits télé où ils sont extrêmement faibles. Mais surtout, le modèle de Salzbourg écrase complètement les autres clubs. Je vous ai cité six clubs tout à l'heure. Les 5 clubs que je viens de vous citer ne font pas le chiffre d'affaires annuel de Salzbourg. La plus grande saison de Salzbourg, évidemment, c'est 2018-2019. Ils avaient vendu plus de 100 millions pour plus de 100 millions de transferts. Ils avaient un chiffre d'affaires de 183 millions officiels. Et le second, c'était le Rapid, qui était seulement à 50 millions. Donc 50 millions, c'est un petit budget de L1, c'est un budget de seconde division allemande et pas de première division allemande. Donc tout ça fait que c'est délicat. L'Austria de Vienne, à l'époque, alors puis il y a un autre phénomène que je dis toujours, les effets multiplicateurs. Lorsque ces clubs-là, les clubs de second rang, comme le Rapid, l'Austria, atteignent l'Europe eh bien évidemment, ils peuvent quasiment doubler leur chiffre d'affaires parce qu'ils touchent des revenus de la compétition européenne et on s'en rend pas compte, mais en fait, les revenus nationaux, domestiques, sont quasiment inexistants. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans les stades, faut dire ce qui est, y compris dans le derby de Vienne, hein, qui est quand même le match théoriquement référence du football autrichien entre l'Austria et le Rapide. C'est un truc que moi j'ai remarqué, il y a plus de clubs, de spectateurs qui vont au stade lorsqu'ils rencontrent des clubs allemands en Europe que ce qui se passe domestiquement. Donc ça, tout ça, c'est un peu délicat. La troisième chose, c'est que, on l'oublie, mais en août 2020, le club de Mattersburg, qui était en première division, a fait faillite. L'Austria de Vienne, qu'on surnomme la Diva Capricieuse d'ailleurs, qui est un club extraordinaire en Autriche, il est dans une situation financière extrêmement compliquée. Et ils ont d'ailleurs pas encore officiellement arrêté leur contrat avec Gazprom, hein, même si ce week-end ils ont joué sans le maillot Gazprom, sans le sponsor Gazprom. Vous avez l'Austria de Vienne qui est dans une situation extrêmement délicate, ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que les joueurs sont en fin de contrat et en gros ils n'ont pas forcément envie de rester. Donc c'est délicat. Le Sturm Graz qu'on a vu en Europa League, c'est 20 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est tout petit. Et vous avez en face un Salzbourg qui trône chaque saison avec ses revenus de Ligue des Champions maintenant, avec sa politique de transfert, etc. Et qui trône, en gros, tourne entre 120, 180. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'ils passent les 200 millions cette saison avec leur passage avec leur huitième de finale de Ligue des Champions. Et donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de championnat. C'est assez simple. Il n'y a pas de concurrence au niveau du championnat. Et c'est paradoxal parce que Salzbourg, on les voit en Europe. On voit l'équipe nationale aussi à l'Euro 2020, qui était aussi présente à l'Euro 2016. Mais quand tu regardes dans le détail de ce qui se passe derrière, moi, c'est une de mes grandes analyses des 15 dernières années. Quand je dis grande analyse, c'est pas que c'est grand. C'est ce que je travaille dessus depuis 10-15 ans. C'est ce décalage complet entre ce qu'on voit, la vitrine, ce que tu disais, le haut de l'iceberg, et puis le reste. Et le reste est en train de s'écrouler complètement.
Schnell, schön gespielt, Philipp Rosina macht aus 17 Metern das 1-0. Keine Chance bei diesem flachen Schuss in die linke untere Ecke für Thomas Gebauer.
Alors, autre caractéristique de la Bundesliga autrichienne, c'est sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Ce but que vous venez d'entendre remonte à la saison 2012-2013. Il était signé Philipp Hosiner, qui passera ensuite par le Stade Rennais, dédicace à Jérôme Thomas, et qui est le dernier Autrichien meilleur buteur du championnat d'Autriche. Alors, Pierre, on va évoquer tout à l'heure l'équipe nationale d'Autriche, mais est-ce que la présence de nombreux joueurs étrangers au sein des clubs autrichiens fait débat en Autriche, justement? Tout à l'heure, Polo parlait de Larry Bosman. Est-ce que ça fait débat là-bas également? Il y a d'autres pays où c'est le cas?
Ça ne fait pas tellement débat, on va dire, parce qu'il y a quand même un équilibre entre Autrichiens et étrangers dans les effectifs du championnat. Après, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... La communauté slovène, serbe, turque est extrêmement présente en Autriche. Il y a beaucoup de joueurs qui ont...
Hongrois aussi, non?
Hongrois, oui.
C'est les restes de l'Autriche-Hongrie.
Ouais,
exactement
mais
ça.
On va dire surtout les Slovènes et les Serbes qui sont vraiment très très présents dans toutes les équipes du championnat autrichien. Et bah, personnellement, je trouve que ça s'équilibre quand même, même si on voit que dans chaque équipe, c'est souvent un joueur étranger qui est le joueur clé de l'équipe. Et ça, on peut le voir même avec les équipes du bas de tableau comme Admira, Altar. C'est souvent les joueurs étrangers qui mènent l'équipe.
Sam, Amadou, toi quand t'as débarqué là-bas, alors à Salzbourg et à Liefering, est-ce que tu te sentais finalement d'avoir une responsabilité supplémentaire du fait d'être étranger finalement? Est-ce qu'il y a ce poids? Parfois les joueurs disent ça, quand on arrive, il faut qu'on apporte plus que les joueurs locaux, ou finalement vous étiez assez tranquille par rapport à ça?
Moi je l'ai senti parce que j'étais français, déjà. Parce que les Français là-bas, j'ai l'impression ils étaient... C'est au-dessus de tout, parce qu'on a des grands joueurs, l'équipe nationale ça marche, il y a des gros clubs. Je l'ai vraiment senti par rapport à ça, mais sinon avec d'autres nations, non. Je pense que c'est plus parce que j'étais français qu'autre chose.
Mais c'est-à-dire comment
tu... Je suis venu du Paris Saint-Germain aussi qu'autre chose.
On te disait quoi pour que tu le ressentes comme ça?
Des petites remarques comme ça, j'ai pas de souvenirs en tête, mais du genre... Après, c'était plus la deuxième saison quand on a gagné la Coupe du Monde.
Ouais, voilà, il y avait le statut.
Vous êtes français. Ouais. Genre, tu sens quelque chose, tu vois. Donc, voilà. Mais sinon, pas avec les autres nations.
Alors Polo, là où le duel entre Salzbourg et le Bayern était riche en symboles, hein, le fameux 8e de finale de Ligue des Champions, bah, c'est que finalement la Bundesliga autrichienne, c'est devenu une forme de filiale de la Bundesliga allemande, la grosse Bundesliga.
Ouais, mais si tu dis ça aux Autrichiens, je suis pas sûr qu'ils
soient mais ils vont pas me comprendre.
Ils vont pas comprendre. parce qu'en fait, le vrai problème de l'Autriche, si tu veux, mais là on reparle de l'histoire et l'histoire du foot, hein, et l'histoire de ce pays, c'est qu'en l'enfer, c'est souvent les autres, et surtout lorsqu'il est allemand, quoi. Et le problème, si tu veux, c'est que l'histoire du football autrichien est extrêmement riche, mais il est extrêmement vieux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la fameuse Wunder Team, en gros c'était le champion d'Europe de l'époque, hein, dans les années 30. Il gagne la fameuse, alors comment elle s'appelait déjà, la Coupe internationale européenne. Oui, Mitropa, c'était pour les clubs de mémoire. La Coupe internationale européenne qui gagne le championnat d'Europe officieux à l'époque, où il y avait l'Italie et différentes choses, différents pays. Il y a eu évidemment l'après-Seconde Guerre mondiale, la période de 1954, avec peut-être le plus... En tout cas, moi, le mien, le plus grand joueur autrichien de tous les temps, c'est Anapi, Gerhard Anapi, qui est une légende, décédé aujourd'hui. Tu as évidemment le parcours de l'équipe de Krankl, Prohaska, Petzet, évidemment, 78-82 avec le miracle de Cordoba. Tu as ensuite les participations à la Coupe du Monde 90-98 avec Herzog, la génération Polster et tout ça. Et si tu veux, ce football est très très riche. Et le problème, c'est que les Autrichiens, je trouve, passent son temps à se regarder dans la glace, mais regarder leur passé. Ils ne regardent pas forcément...
Ils regardent le rétro.
Ah, c'était beau, et ceci, et cela. Et c'est vrai, et j'ai oublié ta question.
Bravo, toi t'as décidé de flinguer le conducteur, toi, mon Polo.
Voilà, c'est ça.
Conduite sans permis. Non, je te disais que la Bundesliga autrichienne était devenue finalement la filiale de la Bundesliga allemande.
Mais parce que c'est une hypocrisie complète de ce qui se passe, c'est-à-dire que... les joueurs en Allemagne sont évidemment mieux payés qu'en Autriche, donc comme il y a une langue commune, et ben on est en train de tout drainer, mais c'est même historique, hein. On n'est pas forcé de revenir sur des vieux entraîneurs. Tous les meilleurs entraîneurs autrichiens aujourd'hui, sauf exception, ils sont en Bundesliga allemande. C'est la même chose pour la Suisse. Et moi, depuis des années, je pense qu'il faudrait réfléchir sur une forme de supranationalité des championnats nationaux, parce qu'il n'y a plus rien en Autriche, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Et la Suisse, c'est la même chose. Et tout ça, le problème, si tu veux, c'est qu'on paye des transferts pour acheter les joueurs au passage relativement cher, mais en fait, on se rend compte que ça vient quasiment de tous de la même... De la même zone, c'est-à-dire c'est Salzbourg, parfois tu as des clubs. Aujourd'hui, via les centres de formation, via Mamadou, on est un très bel exemple, mais il y a des Autrichiens qui sortent d'Offenheim, du centre de formation d'Offenheim. Baumgartner, il ne connaît pas l'Autriche. C'est des joueurs comme ça. Donc, si tu veux, moi, si on ne les intègre pas dans une forme de supranationalisme du foot, par zone géographique, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Donc tout ça est très hypocrite, parce qu'on dit « Ah, oh, le football autrichien revient à la mode parce qu'ils ont été en 8e à l'Euro 2020, ils ont été présents, même s'ils n'ont pas brillé à l'Euro 2016, mais tout ça est plus délicat quand tu vois le détail, parce que financièrement, ils ne s'en sortent pas.
Et le foot autrichien qui semble, hein, revivre du coup avec Salzbourg et son équipe nationale avec l'Autriche qui va affronter le Pays de Galles le 24 mars en barrage pour la Coupe du Monde 2022. La dernière fois que les Autrichiens sont qualifiés pour le Mondial, c'était en octobre 1997, après une victoire 4-0 sur la Biélorussie.
1982 und jetzt ist es aus. Österreich ist definitiv bei der Weltmeisterschaft 1998 als Gruppensieger der Gruppe 4 dabei. 4-0 gewinnt Österreich im Ernst-Happel-Stadion gegen Weißrussland durch zwei Tore von Toni Polster und zwei Tore von Peter Stöger.
4-0 donc face à la Biélorussie avec un doublé de Polster et de Peter Stöger. Alors Polo, la sélection autrichienne est clairement en phase de progression depuis 2008 et depuis son Euro. Elle s'est aussi qualifiée pour l'Euro 2016, hein, d'ailleurs.
Oui, alors à l'époque on appelait ça l'équipe parfaite. Elle était en 4-3-3 avec un Suisse qui s'appelait Marcel Kohler, qui est quelqu'un que j'ai connu en Allemagne, qui avait entraîné Bochum notamment. Et cette équipe, elle était considérée comme parfaite parce qu'elle arrivait à point nommé pour l'Euro 2016. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y avait l'Empirico pour ce premier match de l'Euro 2016 contre la sélection hongroise. Et il s'était passé un truc complètement fou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Alaba qui fait un tir sur le poteau dès les premières minutes. Et finalement, l'Autriche perd 2-0. Et son Euro 2016, elle se fait sortir dès le premier tour d'une façon qui n'était pas logique. Ils sont revenus à l'Euro 2020, évidemment, en 2021, avec beaucoup plus d'expérience. La nouvelle génération, je pense que Pierre sera d'accord avec moi, c'est plus la génération Salzbourg qu'autre chose. Mais tout ça avait déjà commencé à l'Euro 2008 avec l'organisation avec la Suisse de la compétition. Mais honnêtement, entre le niveau de l'équipe autrichienne de 2008 et celle de 2016 et puis celle actuelle, il n'y a pas photo. Le foot autrichien est en progression, mais c'est l'élite, j'ai envie de dire, qui est en progression. Je ne suis pas sûr que... Dès que tu vas voir des joueurs du Rapid, tu les vois d'ailleurs dans les clubs. Les plus grands joueurs aujourd'hui sont soit à Salzbourg, soit à Leipzig, soit en Bundesliga. Les autres, les joueurs d'ailleurs qui sont sur le banc, entre guillemets, ou qui sont le troisième rideau du football autrichien, ils sont au Rapid, ils sont à l'Austria, ils sont au Sturm Graz. C'est assez parlant de ce qui se passe en fait.
À quoi t'attribues toi cette amélioration de la sélection autrichienne, Pierre? Est-ce que c'est vraiment l'effet Salzbourg, sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs étrangers, hein, donc qui n'alimentent pas forcément la sélection pour le coup?
Oui, bah Polo, il a tout dit un peu avant, parce que quand on regarde une liste des 23 de la sélection autrichienne, il y a 20 ou 21 joueurs qui jouent en Bundesliga allemande, et le reste, il y a Alexander Schlager, le gardien de Linz, qui a été formé à Salzbourg, et puis tu as Andreas Ulmer, mais sinon, tout le monde joue en Allemagne. C'est un petit peu mieux dans les sélections de jeunes. Là, on voit qu'il y a des joueurs du Rapid, il y a des joueurs de l'Austria, d'Altar, d'Admira, de Salzbourg, bien sûr, parce que l'EFB, la fédération autrichienne, a essayé de faire des progrès en mettant en avant les jeunes en deuxième division, en troisième division, pour qu'ils évoluent plus rapidement, on va dire. Mais c'est vrai que pour la sélection A, finalement... C'est le championnat allemand qui donne les internationaux autrichiens.
Oui, sauf que, excuse-moi de te couper, Pierre, oui. Beaucoup de joueurs de la sélection autrichienne sont passés par Salzbourg. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une équipe aujourd'hui, quasiment que de joueurs sortant de Salzbourg. Si on parle de Leiner, Interreger, si on parle de Schlager, Zabitzer, Leimer, évidemment, je pourrais en trouver d'autres.
Il Sanker,
évidemment. Tous ces joueurs-là, si tu veux, l'équipe nationale d'Autriche, c'est Salzbourg plus ceux qui sont partis en Bundesliga. Et sauf cas particulier, je pense à Youssouf Demir, évidemment, le jeune prodige du Rapid de Vienne qui avait été prêté au Barça et qui finalement, apparemment, n'a pas fait la bonne opération parce qu'il est revenu, mais voilà, c'est délicat. Donc il y a quelques joueurs qu'on peut peut-être trouver comme ça. Je pense à un joueur autrichien qui est en train d'exploser en Bundesliga allemande, c'est Wimmer à Bielefeld, mais en gros, c'est déjà le tri est déjà fait, si tu veux. Et ce qui est très important pour l'équipe d'Autriche, c'est que je trouve qu'ils ont une patte Salzbourg, par la façon dont ils jouent, d'une façon... Alors moi, j'ai un vrai problème avec Franco Foda, je pense que c'est le vrai problème, je sais pas si Pierre est d'accord avec moi, oui. En sélection...
Je pense que les Autrichiens sont d'accord aussi, oui.
Je pense qu'il y a un vrai problème avec le sélectionneur, mais cette génération, je pense qu'on n'en a pas vu une aussi belle depuis les années 80, très clairement.
Oui, oui. Ah oui, mais rien que le résultat de l'Euro 2020, rien que tenir l'Italie comme ça, jusqu'en prolongation... En étant avec le but d'Artonovtovic qui est hors jeu d'un millimètre, ça aurait pu basculer du bon côté. Enfin, l'Autriche s'est tellement amélioré en une décennie, hein, pas plus.
C'est ça.
Et ouais, c'est sur les bons rails en tout cas, mais avec une base qui vient
un grand coach.
Du même endroit.
Ouais. Je pense qu'il leur faut un grand coach.
J'aimerais juste qu'on entende Mamadou également là-dessus. Juste Mamadou, toi d'une façon globale, est-ce que tu as ressenti une passion pour le football quand tu as vécu en Autriche ou pas plus que ça finalement?
Non, pas plus que ça. La seule fois où j'ai senti que vraiment il y avait un engouement, c'était contre Marseille, je crois. Marseille?
Ouais.
En Europa League.
La fameuse demi-finale.
Là, il y avait... Ouais. Et même juste avant, je crois qu'ils avaient joué contre Sparta.
Ils avaient battu Dortmund. Ils avaient battu Dortmund aussi.
Ouais, Dortmund aussi, Real Sociedad aussi, il me semble.
Je crois. Ouais, c'est ça.
Et bah c'est là que j'ai senti que là il y avait un engouement. Sinon, à part ça, en championnat, généralement les stades ne sont pas remplis. Sinon, c'est vraiment en Coupe d'Europe, tu sens qu'ils sont derrière.
Ouais. Et tu sens qu'il y a aussi, je sais pas si tu as eu le temps de ressentir ça également, mais autour de l'équipe nationale, qu'il y avait peut-être un regain finalement d'énergie ou de passion pour cette équipe nationale.
J'ai pas entendu.
Je te disais, est-ce que tu as eu le temps de ressentir une forme de regain vis-à-vis de l'équipe nationale, d'intérêt de la part du public vis-à-vis de la sélection autrichienne, qui on le disait, s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde depuis 98?
Non, j'ai pas ressenti... Par rapport à l'effet de l'équipe nationale, non, j'ai rien ressenti.
Alors les plus jeunes ne le savent peut-être pas, même si Polo en a parlé tout à l'heure, mais le foot autrichien a eu ses heures de gloire au niveau mondial. La Wunderteam de Sindelar dans les années 20-30, demi-finaliste du mondial 34. L'Autriche d'Anapi, demi-finaliste 20 ans plus tard. Le quart de finale de 1978 avec notamment le doublé de Krankl face à la RFA. Et l'autre quart de finale, celui 82, après le match de la honte face à la RFA.
Und jetzt kann Sarah sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball reinholen. Fassner klingt darüber. Es gibt Beifall für ihn. Da kommt Kranke vorbei. Diesmal ist er neben Bivaka. Ist im Strafraum, im Strafschuss. Da! 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 Ivan Naric, Kranke schießt ein. 3-2 für Österreich.
Ah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Polo. C'est vrai que les Autrichiens vivent avec la nostalgie hein, de ce temps glorieux. Hein.
Mais c'est extraordinaire le mythe de Cordoba qu'on sort, donc le doublé de Krankl qui bat l'Allemagne en 78. C'est fou. Et le vrai problème, en fait, c'est super intéressant ce qui se passe en Autriche aujourd'hui, parce que beaucoup de sociologues du sport sont en train de revisiter un peu ce roman national qui est évidemment très romancé, pour se dire que c'était plus complexe que ça, la Wunderteam c'est plus délicat que ça, que Sindelar était finalement pas si important que ça sur l'histoire de la Wunderteam. C'est comme ça que des joueurs comme Anapi reviennent sur le devant de la scène, qui encore une fois pour moi est peut-être le plus grand joueur autrichien de tous les temps. Mais c'est vrai que une qualification pour la Coupe du Monde 2022 serait extraordinaire pour l'Autriche, mais encore une fois, c'est pas gagné. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, le problème de l'Autriche, du supporter autrichien, entre guillemets, de base, j'aime pas cette expression, c'est que le gars, il vit avec ses vieux souvenirs, alors que le monde a complètement changé. Et excepté Salzbourg, encore une fois, qui est un peu la thématique du jour, c'est un peu plus délicat. Mais moi, je vois une équipe autrichienne, j'ai pas vu une équipe... Enfin, il faut se les coltiner, les matchs de l'Autriche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand, je suis tellement emballé par l'Autriche d'aujourd'hui, que quand, c'est autre chose que quand j'avais Constantin qui était le je parle tout le contrôle de Pierre, qui était le sélectionneur. Enfin, il faut se rendre compte de l'évolution du football grâce notamment à Salzbourg et ce que ça a apporté à l'équipe d'Autriche. Le vrai problème, et c'est le retard qu'ils ont, je pense, sur la Suisse, c'est qu'ils n'ont pas de référence contre les grandes nations européennes. Tu vois, la Suisse, elle a eu son quart, elle a eu la France, évidemment, à l'Euro, elle a déjà battu l'Allemagne, elle a pris des points contre l'Espagne, etc. Même quand elle a perdu qu'au pénalty en Nations League contre l'Angleterre, mais l'Autriche, ils battent encore les équipes de seconde division européenne, mais ils n'y arrivent pas encore contre les grosses nations. Et c'est, je pense, la prise de conscience qui doit être là. Et peut-être qu'on parlera un peu moins de l'ancien football autrichien et un peu plus de celui actuel.
Mamadou, est-ce que tu la vois, l'Autriche, se qualifier pour la Coupe du Monde? Alors, on le disait, hein, ils vont jouer les barrages, ils vont disputer le premier barrage face au Pays de Galles. J'imagine qu'il y a certains joueurs que tu as vu jouer de près. Tu mettrais une pièce dessus ou pas pour une qualif pour le Mondial?
L'équipe actuelle, il y a beaucoup de jeunes en plus avec Schlager, avec qui je me suis entraîné. Hein. Schlager, même il y a Leiner qui est à Mönchengladbach là. Ouais. C'est des bons joueurs, donc j'espère pour eux ils vont se qualifier. Même Ulmer, le capitaine, il était grave gentil, donc vraiment j'espère qu'ils vont se qualifier.
Alors toi, tu es tout jeune aussi, hein, Pierre, hein, mais est-ce que tu vois finalement une forme de culte aussi à ces grandes années du football autrichien? Tu le disais, tu es franco-autrichien, tu as grandi, tu as été biberonné aussi à la Bundesliga autrichienne et à son équipe nationale. Ça te parle aussi? Tu as maté des vidéos sur YouTube, ça te fait fantasmer finalement?
Oui, bah, j'avais fait beaucoup de recherches sur le football autrichien et quand les moments de gloire finalement, ils sont extrêmement vieux. Enfin, bah, la Wunderteam bien sûr de Sindelar qui est demi-finaliste en 34. Le match de l'annexion face à l'Allemagne, c'est mythique, mais...
Pas un match officiel.
Oui, c'est vrai. Mais c'était il y a plus de 80 ans, ouais. Et voilà, de Anapi, c'était il y a 70 ans, on va dire, le début de carrière. Et oui, c'est que quand on veut trouver quelque chose sur le foot autrichien récemment, bah, on n'a pas trop, parce que les légendes du foot autrichien, aujourd'hui, elles sont quasiment toutes décédées, ou elles sont... très vieille. Anapi, par exemple, il est décédé très jeune, je crois, à 50 ans.
Exactement, ouais, exactement.
Ouais, parce, il a construit le stade du Rapid et il est décédé juste après.
Nico, je voudrais juste rajouter, parce qu'on se rende compte juste ce que c'est que l'équipe d'Autriche d'aujourd'hui. La plupart des joueurs, de ceux qui ont fait l'Euro 2016 et l'Euro 2020, vont sûrement battre tous les records des anciennes générations en termes de nombre de caps. ou peut-être au nombre de buts, peut-être, tu vois. Dragovic, il est à 98 sélections, Herzog, le record, c'est à 103. Tu vois, Arnautovic, il est à 96, Alaba, 91. Donc, ils vont vraiment passer au-dessus des anciennes générations. Et en termes de buteurs, évidemment, ça va être difficile d'aller chercher Polster, qui avait 44 buts, mais Arnautovic, il en est à 32, tu vois. Donc, et Krankl, il en est à 34. Donc, ça veut dire que quand même que ce qui se passe depuis l'Euro 2016 et puis l'Euro 2020 montre que cette génération autrichienne, ou ces deux générations autrichiennes, celle de l'Euro 2016 et celle aujourd'hui Salzbourg, Gien, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sont en train, quelque part, d'effacer les anciennes générations aussi. Il faut juste qu'ils fassent des exploits maintenant. L'Euro, ils l'ont fait en étant en huitième de finale, et maintenant, voilà, c'est la Coupe du Monde, quoi.
Voilà, et les exploits, les prochains, possiblement, ce sera donc le 24 mars face au Pays de Galles pour les barrages de la Coupe du Monde. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur d'Écosse-Ukraine au tour suivant. C'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas de lâcher vos commentaires, de nous suivre, quelle que soit votre plateforme, et surtout, abonnez-vous. Merci Polo, qu'on retrouve dans l'after.
Merci beaucoup.
Merci Pierre Gors, animateur du compte Twitter du RB Salzbourg en français. Merci beaucoup Mamadou Dembélé, belle fin de saison à toi avec Pau. Merci à Jérôme Thomas à la production. Merci Sylvain Kemener et Charline Fina à la réalisation. Comme toujours, on se quitte en musique avec Crack Ignaz, un artiste made in Salzbourg.
Süß wie eine Mozartkugel. So die schönen Haare, du kennst mich. Ja. Ja. Eben swaggy, eben swaggy, eben sexy, eben sexy, eben a fescher Motherfucker. Nenn mich König, nenn mich König von den Alpen, von den Alpen. Ich bin der König von den Alpen. Swag. Ich bin gut drauf, ich bin swaggy, ich bin fröhlich, ich bin sexy. Warum bin ich so fröhlich? So fesch. Nenn mich König von den Alpen, ich bin der König von den Alpen.
RMC, After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.